CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Madame, monsieur, bonjour. Rémi Thoreau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, dans le MAG, nous lançons une nouvelle série de portraits consacrés aux habitants des quartiers prioritaires de Montauban. Cette série est réalisée dans le cadre du contrat de ville, le dispositif de la politique de la ville porté par l'État, le Grand Montauban et de nombreux partenaires. Son objectif est de réduire les inégalités entre les quartiers en soutenant des projets dans le domaine de l'emploi, de la réussite éducative, de la santé, de la culture, du sport, de la citoyenneté ou encore de l'accès aux droits. Il accompagne CFM Montauban pour des actions d'éducation aux médias et de valorisation de la parole des habitants. Les quartiers prioritaires de Montauban sont au nombre de 3, Cœur de Ville, Médiathèque Chambord et Beau Soleil Bas. À CFM, l'une de ses actions prend la forme donc de cette série de portraits radiophoniques. Pendant son stage de journalisme, Perrine Guyon-Lanabras est allée à la rencontre des habitants en lien avec les associations de terrain. Les interviews ont été réalisées en reportage directement dans les quartiers afin de recueillir les témoignages au plus près de leur quotidien. Premier portrait aujourd'hui avec Ziano, habitant du quartier Médiathèque Chambord. Il nous parle de son parcours, de son quartier et de ce qui fait son quotidien. Voici donc le premier épisode de ces portraits des habitants des quartiers prioritaires de Montauban.
On croit connaître Montauban par ses cartes postales, ses places historiques ou ses boulevards animés, mais la vraie richesse de la ville se cache là où le quotidien s'écrit, au cœur de ses quartiers et à travers le regard de ceux qui les font vivre. Les quartiers prioritaires abritent des histoires, des projets et des parcours de vie qui méritent d'être racontés, loin des clichés, par celles et ceux qui les font vibrer au quotidien. Pour ce nouveau portrait, j'ai rencontré Yacine, 31 ans, un artiste passionné de musique et très attaché à la ville de Montauban. Il porte fièrement les couleurs du Tarn-et-Garonne, mais aussi celles du Maroc, héritées de son père. Yacine est un enfant du quartier des Chaumes, un quartier qu'il m'a décrit comme un véritable écosystème de la ville. Une identité qu'il revendique et célèbre au quotidien. J'ai retrouvé Yacine dans son QG, un bistrot-café sur la route du Nord à Montauban. Un endroit dans lequel il vient passer du bon temps mais aussi écrire ses textes dont il me parle avec passion. Pour l'occasion, il portait un maillot de football rose de l'équipe marocaine. La couleur de Montauban associée aux origines de son père, une nouvelle preuve de la fierté que porte Yacine à son patrimoine.
Je m'appelle Yacine, je viens du quartier des Chaumes, quartier Est à Montauban. C'est le quartier populaire de la ville. J'y suis né, j'y ai vécu, je suis parti, je suis revenu habiter là-bas.
Ok, très bien. Donc vous êtes sur Montauban en fait depuis toujours. Vous êtes un enfant de Montauban.
Ouais, purement 100% produit montalbanais. Même à travers la musique, on est 100% montalbanais.
Bah, parlez-moi un petit peu de la musique. Alors, décrivez-moi un peu votre activité. Qui êtes-vous à travers la musique?
Ben, en fait, le personnage Ziano, c'est un personnage qui est né au quartier, du coup, quartier Est, au Cham. Enfin, moi, j'étais à Pyrénées. Parce qu'en fait, le quartier, ça regroupait 3 cités. T'avais Pyrénées, Chambes-Cellier. Donc moi, je suis né aux Chambes. Mes parents habitaient Pyrénées, mes grands-parents Chambes et mes autres grands-parents Cellier. Donc purement produit de là-bas. Donc depuis tout jeune, moi j'aimais la musique. Donc ça veut dire que, je vais pas dire depuis que je suis né parce qu'on n'était pas en âge, mais dès que j'ai commencé à comprendre c'était quoi la musique à travers les Michael Jackson, Bob Marley, IAM, etc. Béziano au quartier, c'était ça. La musique, il répétait dans sa chambre, il imitait les artistes et jusqu'à aujourd'hui.
Et à travers la musique, est-ce que vous aviez un message particulier à faire passer?
Bien sûr, message de paix, de rassemblement surtout. Quand on est plus jeune, c'est sûr qu'on ne connaît pas trop les thèmes, donc on est assez libre, on dit ce qui sort par la tête, en bien ou en mal. Mais plus on grandit, plus on découvre des choses, on découvre le milieu, on comprend aussi c'est quoi venir d'un quartier. Donc moi, ça me sert à ça, étant proche aussi des associations, des enfants malades, contre l'harcèlement, etc. Donc j'ai pu m'ouvrir.
Donc tout ça dans le décor de Montauban que vous avez dû voir changer au fil des années. Vous me parliez du quartier des Chaumes. Qu'est-ce que vous avez constaté comme grand changement? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Eh bien, il ne reste plus grand-chose. Franchement, du quartier en général, des 3 cités regroupées, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est propre. À l'époque, c'était des, par exemple, la Pyrénées-Saint-Michel, pour les anciens, c'était des longues tours. Aujourd'hui, c'est comme une résidence, donc c'est joli. Même si je reste très nostalgique, moi, de cette époque, parce que je trouvais ça beau. Il y a encore des vidéos et des photos sur Internet pour ceux qui veulent se renseigner c'était quoi le quartier à l'époque. Mais voilà, ça c'est devenu très propre. Ça ressemble à des résidences modernes, entre guillemets. Il reste quoi, on va dire, je vais exagérer, mais il reste 10% de bâtiments. Mais ça, Montauban a bien évolué et la cité a bien changé, quoi.
Qu'est-ce qui faisait l'ADN de ce quartier dont vous parlez si bien? À quoi ça ressemblait? Décrivez-le-moi.
Je vais le décrire, mais avec le cœur, parce que je suis très nostalgique de cette époque-là. Donc, c'était le partage, on était tous ensemble, que ce soit des habitants, aux éducateurs, au centre social qui était là, à Montauban Service aussi qui était implanté. C'était vraiment l'union. On était vraiment tous ensemble, ça veut dire on s'entraidait, mais moi j'étais jeune, donc j'aurais aimé que ça se passe pareil actuellement. Mais je voyais qu'il y avait des fêtes de quartier, c'est-à-dire quand on aimait chanter, ils nous appelaient un petit peu. Souvent, les grands, il y avait des groupes à l'époque aussi, aux chambres, qui s'appelaient Sud-Ouest. Ils avaient monté un collectif, donc ça faisait des scènes. C'était vraiment c'était vivant, comparé un peu à aujourd'hui, où il faut être honnête, où c'est plus... Il y a juste des bâtiments, quoi.
Et là, maintenant que vous êtes un grand adulte, qu'est-ce que c'est de vivre dans votre peau actuellement? Qu'est-ce qui a évolué avec cette enfance que vous me décrivez?
Moi, je pense que je n'ai pas énormément évolué. J'ai encore la mentalité d'enfant, entre guillemets. Bien sûr qu'on évolue, j'ai des enfants aussi, donc on grandit avec le temps. Mais moi, je reste quand même, je le répète, mais nostalgique de l'époque. Très, très nostalgique parce que c'était vraiment là où je me sentais le mieux. Humainement, où on pouvait sortir, on côtoyait les gens, je sais pas si c'était ça la question, mais je retrouve plus ça aujourd'hui, malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais on grandit parce qu'avec d'autres idées, mais on a perdu ce côté-là d'avant. J'aurais aimé en fait grandir avec ce cocon qu'il y avait avant. D'autant plus avec la musique aujourd'hui, ça aurait pu me servir pour essayer de tendre la main.
À côté de la musique, du coup, j'ai entendu que vous aviez des enfants. Comment vous leur transmettez cet amour de Montauban que vous avez?
Il faut être fier de là où on vient. Mes enfants, ils sont nés à Montauban. C'est-à-dire même si aujourd'hui, je ne les ai plus trop avec moi, je les vois quand je peux les voir, mais ils sont nés ici et je veux leur faire comprendre que sois fier d'où tu viens. On a souvent tendance dans les petites villes, entre guillemets, dire qu'on vient de grandes villes, peut-être par honte, je sais pas. Je trouve ça que l'humain est... Je sais pas comment l'expliquer, mais t'es né ici, que ce soit Montauban ou une campagne, ou en général, faut être fier de là où tu es. C'est là où il y a tout ton point de départ. Donc, faut pas oublier le point de départ. Perso, même si demain, je suis ailleurs, je resterai 100% montalbanais. Donc, je leur apprends ça en grande ligne. Pas trop d'explications. T'es né ici, sois fier d'où tu viens, représente d'où tu viens, tout simplement.
Donc finalement, selon vous, l'identité de quartier, c'est plus que simplement une identification géographique et de localisation. Selon vous, c'est quoi venir d'un quartier? Qu'est-ce que ça représente?
Moi, en fait, vu que je viens de là, pour moi, c'était normal d'être quelqu'un d'un quartier. C'était une force. Mais en fait, plus on avance, on ouvre d'autres portes. Et là, on vient à ce que tu es en train de dire, c'est on a l'étiquette. Et aujourd'hui, le quartier comme avant, moi je trouve qu'avant c'était peut-être pire. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop la mentalité d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui quand même on est libre, il y a les réseaux, donc on peut s'exprimer. Donc on n'a plus cette barrière de qu'est-ce que c'est un quartier. Avant ça faisait peut-être peur, parce qu'il n'y avait pas trop, c'était juste médiatisé de la mauvaise manière. Mais aujourd'hui, à travers les réseaux, à travers les stories qu'on peut faire, on peut montrer le bon côté. Mais en fait, on a encore cette étiquette où si on vient d'un quartier, malheureusement on est... Déjà, on part avec des cailloux dans le pied. Mais c'est même pas des cailloux, c'est des rochers, en fait. C'est ouais, tu viens du quartier, donc peut-être que t'es pas forcément intelligent. À contre-cœur, je dis ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue en sortant de tout ça. Ou sinon, on te prend pas trop au sérieux. Et le problème, c'est quand on vient d'un quartier, entre guillemets, on a des codes. Par exemple, façon de parler, si on n'a qu'une parole, entre guillemets, mais quand on côtoie d'autres milieux, juste la parole, ça fait pas le contrat ou le projet. Donc déjà, on a ces, 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 petits, ces petits codes-là qu'il faut des fois changer, mais à travers le regard des gens, on voit que, mine de rien, t'as l'étiquette du mec de quartier, en fait. J'arrive pas trop à l'expliquer vraiment, mais c'est comme si on n'est pas encore compris. Alors que perso, moi, à travers la musique, je répète, parce que c'est ce qui m'a fait ma vie, hein, genre. Quand je côtoie des gens qui sont hors quartier, parce que j'ai de la famille aussi qui habite, qui n'ont pas vécu au quartier, et ben en fait, on arrive à passer de super bons moments, on partage les mêmes valeurs. Mais on a ce côté, ouais, t'es dans un quartier, t'es dans un bâtiment. Alors que si on fait réfléchir le cerveau 30 secondes, il y a des gens qui habitent en ville, mais ils sont dans des bâtiments aussi. Mais on a encore cette étiquette de quartier, racaille, même dans notre façon de parler, après on a encore ces codes. Donc on est beaucoup jugé et on ne nous prend pas trop sérieux parce qu'on vient de là. On ne nous fait pas trop confiance. C'est des choses que j'essaye de me battre pour montrer que c'est faux et c'est totalement faux. En fait, le quartier, ça reste la cité, ça reste ci, ça reste le regroupement. Ça. Mais si on le prend à contresens, c'est aussi un endroit où les gens ils sont unis. Il y a le partage entre guillemets. Je me rappelle, moi j'ai connu que des gens, il leur manquait, je sais pas, des œufs, du sel, on va chez la voisine. On partageait toutes les communautés, français, maghrébins et autres. Mais les gens, certains ne comprennent pas ça. Du moins, ils font semblant, je pense, de ne pas le comprendre. Voilà, c'est quoi un peu pour moi l'étiquette du quartier quand on s'expatrie ailleurs un peu.
Avec Yacine, j'ai eu l'occasion de discuter des stigmates dont sont parfois victimes les quartiers populaires. À travers sa musique et ses engagements associatifs, il prend activement la parole sur ces aspects de la vie de quartier. Lorsque Yacine ne trouve pas les mots, il peut compter sur son alter ego artiste, Ziano.
Pour revenir un petit peu, parce que vous m'avez quand même parlé tout le long de cette discussion de votre passion pour la musique, donc on va y venir. Ça fait combien de temps environ que vous en faites? Et est-ce que vous sentez que cet effort que vous devez redoubler, que vous me dites au quotidien, est-ce que vous le retrouvez aussi dans le milieu musical?
Bien sûr, ben, la musique, je la fais depuis très jeune, on va dire. On a souvent tendance à dire, nous, les artistes, qu'on commence souvent à 10 ans, 11 ans. Mais c'est un peu vrai, parce que c'est là où on commence à connaître, on fait nos... À l'école, on apprend les fameux petits poèmes, on apprend à écrire. Donc... Mais bien avant ça, déjà, j'aimais ce milieu-là. C'est pas vraiment, je me suis mis il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai 31 ans, bientôt 32. Même quand je faisais du sport, moi j'ai fait du basket aussi. Donc... Et même dans le sport, on le côtoie aussi, cette étiquette, malheureusement. On a souvent tendance à dire, ouais, nanana. Enfin bref, je trouve ça débile. Et je le vois. Parce que je me rappelle qu'un jour j'ai fait des émissions ou même quoi, des fois quand on parle avec moi, on me prend pas trop sérieux comme on disait tout à l'heure, alors qu'ils voient que c'est sérieux à côté, pardon. Je suis là, je propose des musiques à thème, des combats, je le revendique publiquement. Je suis très vivre ensemble. Mais malgré ça, t'as cette fameuse étiquette. Pourquoi, je sais pas. Et le quartier, je le défends et je le défendrai tout le temps. Je suis 100% comme je dis, et je le dis haut et fort dans tous mes concerts, dans toutes mes interventions, je le dis, je m'en cache pas. Mais on va plus donner, s'il faut, de la lumière à quelqu'un qui fait pas trop d'efforts, même s'ils font de l'effort, attention. Mais vu que moi j'ai cette étiquette-là, du jeune maghrébin de quartier, nanani, nanana, pour eux, eh bien, j'ai encore, au lieu de casser une Porsche, je dois en casser peut-être 5-6 encore. Je suis comme tout le monde. Bon, quand je vois les enfants malades ou certains assauts, je ne veux pas qu'on parle de moi. Je le diffuse sur les réseaux parce qu'il faut montrer. Mais si ça aurait été que moi, je ne le montre même pas. Donc oui, on a quand même encore... J'ai encore cessé. Et peut-être je l'aurai tout le temps. Peut-être parce que je défends cette chose-là. Même si je ne défends pas forcément le quartier, je viens de là, donc je représente ça. Je me bats pour ça aussi. Mais comme je me bats pour des gens des campagnes ou des gens dans ville ou des gens du 4... ou l'humain en général.
Parlez-moi un petit peu de votre alter ego, finalement, votre nom de scène, votre nom d'artiste. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'où vient-il? Et que cherchez-vous à transmettre à travers cet alter ego?
Ça a une sonorité italienne. Moi, j'ai toujours aimé les blases un peu, les surnoms un peu italiens avec des O. En plus, moi, étant un fan de Psychiatre de la Rime, rap marseillais, donc ils avaient toujours des soprano, Alonso, Vincenzo, Algerino, tous ces trucs-là. Donc j'étais dans cette phase-là. En fait, j'utilise pas Ziano. Ouais, c'est mon deuxième personnage, comme j'aime bien dire. Ziano, Honnêtement, Ziano fait vivre Yacine. Ouais, vraiment. Yacine, c'est quelqu'un de très nostalgique, mélancolique, renfermé, trop timide. Ça veut dire que je suis ces deux personnages entre lui et Ziano. Et bien, j'ai l'impression que depuis le début, mais surtout depuis quelques temps, c'est lui qui me fait vivre des trucs incroyables. J'ai beaucoup fait plus de choses à travers la musique qu'à travers ma propre vie à moi. Je sais que Ziano a beaucoup, beaucoup, beaucoup régalé Yacine et il fait du bien à Yacine. Je pense que s'il n'y a pas Ziano, Yacine, il serait dans une tête d'une autre dimension. Soit dans des choses très sombres, très... Je sais pas, mais je sais que Ziano m'apaise mon cœur quand Yacine a le cœur lourd.
Et donc, vous êtes membre de Un Maillot pour la Vie, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez me parler un peu de cet engagement et de l'association en elle-même pour celles et ceux qui ne connaissent pas ?
Un Maillot pour la Vie, c'est une association qui, pour les enfants malades. C'est-à-dire, ils vont dans beaucoup d'hôpitaux en France ou dans des centres, etc., pour les enfants malades. Et ils réunissent beaucoup de sportifs, etc., des pros, hein. Comme à Toulouse, par exemple. Antoine Dupont, des fois il ramène les équipes de Colomiers, Stade Toulousain, TFC, nanani. Montauban, ils font avec l'USM aussi, et dans les autres villes, pareil, ils prennent vraiment les équipes professionnelles. Et ils font des journées, une après-midi, avec des jeunes patients. Et on leur fait un peu d'animation, on se déguise, on joue à des balles, on fait un blind test. Et en fait, eux, ils font ça. Et ils font aussi des braderies. Et en fait, avec tout l'argent qu'ils récoltent, et c'est vraiment prouvé parce que j'ai côtoyé aussi des associations très malsaines. Et eux, en fait, avec chaque centime qu'ils gagnent pour l'asso, ils font vivre le rêve d'un enfant. Ça veut dire qu'ils ont des carnets et les enfants notent leurs rêves. Par exemple, c'est de rencontrer Mbappé. Je sais qu'il y a quelques temps, ils sont allés à Madrid, ramener en loge, rencontrer Mbappé. C'est magnifique. Antoine Dupont, le Rose Festival avec Big Flo, Oli. C'est une association que je les aime énormément parce que j'ai vu ce qu'ils font. Je suis engagé, mais vraiment avec le cœur.
C'est rigolo qu'on parle d'un maillot pour la vie, puis de cette double identité presque entre Yacine et Ziano, parce que là, actuellement, du coup, vous portez un superbe maillot rose de football, si je ne m'abuse, de l'équipe du Maroc.
C'est ça.
Et du coup, ma question, c'est est-ce que Yacine, du coup, fait du sport ? Est-ce que vous avez pratiqué du sport, surtout en plus à Montauban où il y a pas mal d'espace, etc. Vous qui parlez beaucoup de sport, est-ce que ça fait partie de votre vie ?
J'ai fait du sport plus jeune. Au début, j'avais fait du foot classique. C'est le sport... Basket-foot, c'est le sport phare des quartiers, par exemple. On va pas se mentir. Donc, j'ai commencé avec du foot. Mais je sais pas, depuis toujours, quand je me sens pas à l'aise quelque part, je vais pas faire semblant. Donc soit j'étais trop jeune, soit ça se passait super bien, mais j'arrivais pas à se faire ma place. Et je me rappelle, il y avait un collègue, il me disait, parce qu'à l'époque à Montauban aussi, il y avait, je sais plus comment ça s'appelait, c'était la mairie qui offrait des licences. Ils allaient dans les écoles primaires et ils offraient des licences. Donc en fait, ils étaient venus, nous, à l'école des Champs, Georges Lapierre précisément, et ils nous avaient dit, ouais... Inscrivez-vous sur une liste et on vous paiera la licence. Peu importe le statut, parce que bon, ça va, mais je manquais de rien. Mais... Donc j'avais pris foot. Et un collègue m'a dit, oh, moi je veux faire du basket, tout ça, t'es sûr, viens pas. Tu viens pas. J'ai dit, non, moi foot, basket. Il m'a dit, mais si, viens. Donc moi, parce qu'il faut le savoir, jusqu'à aujourd'hui, moi je donne tout pour mon entourage. Ça veut dire que même les études, j'ai décidé un jour de redoubler, parce qu'un de mes meilleurs collègues d'enfance, il a redoublé. Convoqué à Olem de Gouges, là, à Montauban, convoqué proviseur mes parents, mes proches, ils demandent à redoubler. J'ai fait semblant que j'avais des lacunes. J'étais juste normal en classe, mais j'ai fait non, ça va pas, ça va, juste pour rester avec mon collègue. Donc là, mon collègue en primaire me dit viens, donc je suis allé. On a fait du basket. Donc on a commencé le basket au Montauban Basket Club. Et ouais, j'ai commencé depuis, c'était un mini poussin, non, poussin. Poussin, donc je sais plus c'est trop, maintenant ça parle en U12, U10, je sais plus comment, je sais plus l'âge exactement. Donc j'ai commencé vraiment tout en bas de l'échelle et j'ai arrêté je crois avant senior, si je dis pas de conneries. Mais ouais, j'ai fait on va dire une bonne dizaine, voire maximum peut-être 15 ans de basket, si je dis pas
c'est,
de...
C'est junior avant senior.
Junior, exactement. Ouais, ben c'était ça. J'avais fait junior, après j'avais arrêté parce que j'aimais trop la musique. Et alors que j'avais pas d'opportunité en soi à ce moment-là. Mais j'ai essayé de me faire un peu des deadlines dans ma tête, de me faire des un game plan. Je me suis dit, bon, le sport. Alors j'ai, franchement, j'étais super bon. Aujourd'hui, mes parents, mon père, même mes, certaines personnes, ils m'ont dit, pourquoi t'as arrêté? T'aurais dû faire, t'aurais allé loin. Mais en fait, la musique, moi, était au-dessus pour moi. Je regrette des fois un petit peu, j'aurais dû peut-être continuer. Mais je suis du coup 15 ans de basket. Aujourd'hui, on fait un peu de salle pour essayer de maintenir. Mais sinon, après, je suis un passionné. Je vais voir les matchs de basket tout le temps. Je vais même jusqu'à Toulouse voir des matchs. En fait, maintenant, on m'invite. J'ai de la chance qu'on m'invite à travers les contacts qu'on se fait dans des événements sport. Donc, j'y vais. Que ce soit dans le kickboxing. Même, j'ai fait des clips avec une jeune championne du monde, Maëlys, qui est de Montauban. En fait, je découvre. Donc, j'aime le sport. Je vais pas dire que je suis un grand sportif aujourd'hui, ça serait mentir. Mais je kiffe, comme quand je suis invité par Jérôme Bosviel à l'USM, je découvre le rugby. Donc déjà, même pour mon expérience personnelle, c'est beau. Et on revient sur l'étiquette, certains m'ont vu au rugby, m'ont dit « qu'est-ce que tu fais au rugby ?» C'est pas trop... Oui, c'est vrai. C'est du sport, ça devait être ouvert à tout le monde. Et je sais que... En plus, l'USM, c'est un grand club, c'est le club de la ville, c'est l'emblème de Montauban, quoi.
Yacine voit les choses en grand. Il espère que sa carrière musicale lui permettra de s'étendre en dehors de Montauban. Il me confie cependant que quoi qu'il arrive, il se souviendra toujours d'où il vient et qu'il aura toujours un pied dans le Tarn-et-Garonne.
Voilà, merci à Perrine Guillon-Lanabras, actuellement en stage de journalisme à CFM Montauban pour ce premier portrait d'une série consacrée aux habitants des quartiers prioritaires de Montauban. Ziano, eh bien, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux et notamment sur sa chaîne YouTube, Ziano officiel, et c'est depuis cette chaîne YouTube que je vous propose d'entendre un titre de Ziano pour terminer et être complet sur ce portrait. Le titre s'appelle « Let's go ». Voilà, Let's Go de Ziano. Vous retrouvez l'artiste monté albanais sur sa chaîne YouTube Ziano Officiel. Et vous retrouvez évidemment ce premier portrait de cette série et puis tous les autres, parce qu'il y en a de très nombreux portraits des habitants des quartiers prioritaires, sur notre site internet cfmradio.fr.
Vos podcasts et replays, podcasts et replays. cfmradio.fr.
Cet été, vivez l'art autrement au musée Ingres Bourdelle à Montauban.
Découvrez l'exposition Ingres et la mode, une immersion fascinante dans l'univers de l'artiste à travers plus de 200 pièces, peintures, dessins, textiles et accessoires.
Dans la salle du Prince Noir, laissez-vous surprendre par Mémoire vive, l'installation visuelle et sonore de Françoise Petrovitch, véritable invitation à la décollection.
Deux expositions, un lieu emblématique, le musée Ingres Bourdelle à Montauban. Plus d'infos sur musée Ingres Bourdelle.com.